Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 12 à 21 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى
وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله.
Certes, oui, à nous de guider. Certes, oui, et à nous l'au-delà et le présent. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne tombera que le très malheureux, et celui-là même qui crie au mensonge et tourne le dos, alors quand sera écarté le pieux, celui-là même qui donne ses biens pour se purifier, sans que personne lui ait fait un bien dont ce soit la récompense, mais pour la seule recherche du visage de son Seigneur le Très-Haut. Et certes, il va bientôt agréer.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 5 octobre 2022. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Fake news, menace pour la sécurité. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, PGSC, un engagement durable de toutes les parties rendra possible la réalisation rapide d'un accord sur la relance du pacte, a déclaré Téhéran. Commentaires interventionnistes de Londres, l'ambassadeur britannique est convoqué pour la deuxième fois au ministère iranien des Affaires étrangères. Et puis, saisi d'un navire transportant 250 000 litres de carburant de contrebande dans le golfe au Persique par le corps des gardiens de la révolution islamique. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. L'Iran affirme que l'engagement durable de toutes les parties à l'accord nucléaire de 2015 rendra possible la réalisation rapide d'un accord sur la relance du plan global d'action conjoint sur le nucléaire iranien de 2015, PGAC. La remarque a été faite par le négociateur en chef de l'Iran lors des pourparlers tenus pour relancer l'accord multilatéral en difficulté depuis le retrait unilatéral des États-Unis en 2018. Le diplomate de haut rang iranien, Ali Borelikhani, a ajouté que le respect par toutes les parties de leurs engagements garantira la pérennité d'un accord sur la relance de l'accord. Les États-Unis, sous l'ancien président Donald Trump, ont quitté le PGAC en mai 2018 et ont rétabli les sanctions unilatérales contre l'Iran. Depuis l'année dernière, l'Iran et les autres signataires du PGAC ont tenu plusieurs séries de pourparlers pour relancer l'accord en agonie. Malgré des progrès notables, la décision et les atermoiements des États-Unis ont provoqué de multiples interruptions dans les pourparlers. L'Iran cherche des garanties de la part de la partie américaine pour qu'il ne se retire plus jamais du pacte international mettant en péril les intérêts de la nation iranienne. Téhéran appelle également à la résolution des problèmes de garantie avec l'agence nucléaire de l'ONU, AIOA, dans le but de relancer l'accord. L'Iran exige que l'Agence internationale de l'énergie atomique se concentre sur sa tâche technique et s'éloigne de tout rôle partial et politisé. Téhéran convoque l'ambassadeur britannique pour protester contre l'attitude interventionniste et destructrice de Londres face aux derniers développements et troubles en Iran. Simone Sharkleaf a été convoquée en réponse à la convocation par le gouvernement britannique du chargé d'affaires iranien un jour plus tôt. Le gouvernement britannique a accusé les autorités iraniennes de violer les droits de l'homme et de réprimer prétendument les manifestants. En réaction aux démarches interventionnistes de Londres et à son soutien controversée aux troubles en Iran, le Foreign Office indique que M. Sharcliffe a été informé qu'au Téhéran condamne fermement l'ingérence de Londres dans ses affaires intérieures. Le directeur général du ministère iranien des Affaires étrangères pour l'Europe occidentale a déclaré que les remarques britanniques concernant la gestion par l'Iran de ses affaires intérieures étaient fondées sur des interprétations erronées et des provocations et a souligné que Téhéran examinerait ses options face à toute action inhabituelle de la Grande-Bretagne. Selon un haut fonctionnaire du ministère, le Royaume-Uni a recours à des interprétations erronées et provocatrices et fait des commentaires biaisés et indiscrets sur ce qui se passe en Iran. Le haut diplomate iranien a déclaré qu'en agissant de la sorte, Londres se range clairement du côté des scénarios imaginés par les groupes qui sont largement actifs contre la République islamique. Les manifestations ont été initialement déclenchées par la mort d'une femme de 22 ans après son arrestation par la police, mais elles se sont rapidement transformées en émeutes et en actes de vandalisme. Plus tôt, réagissant à ces événements, le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique CGRI a promis une réponse écrasante aux campagnes médiatiques destructrices menées par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Arabie saoudite contre l'Iran par le biais de diverses méthodes, notamment via les médias. Selon les autorités iraniennes, les ennemis du pays ont lancé cette campagne politico-médiatique pour compenser le déclin américain. Réagissant toujours à ces développements, le guide de la révolution islamique d'Iran a rappelé que les ennemis et leurs propagandistes ne pourront jamais tolérer l'existence d'un pays puissant, influent et souverain, gouverné par un système islamique. Ces dernières années, avec le soutien de leurs maîtres interventionnistes et impérialistes qui sont hostiles à un Iran fort et indépendant, les éléments anti-iraniens en Europe et aux États-Unis ont joué le blanc pour le noir. Leurs médias et tribunes rémunérées, dont les experts sont déconnectés des réalités de l'Iran d'aujourd'hui, parades et dupes des jeunes et des acteurs amateurs sans scrupules moraux, créent une chaîne de mensonges pour gonfler les nouvelles décevantes autour de l'Iran, diffamer ainsi les autorités de l'ordre de la République islamique et tromper l'opinion publique internationale par le biais de financements sales, d'histoires déformées et de campagnes de dénigrement massives. Le juge en chef de la province d'Ormuzgan, dans le sud de l'Iran, a annoncé la saisie d'un navire flottant transportant 250 000 litres de carburant de contrebande, je vous le disais en titre, par la marine du corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, dans les eaux du Golfe Persique. Selon le rapport de l'IRNIN du mercredi 5 octobre, citant le juge de la province d'Ormuzgan, Mojtaba Rahmani a déclaré, dixit, avec la coordination du procureur général et révolutionnaire du comté de Rech, après avoir identifié un objet flottant transportant du carburant de contrebande dans les eaux du Golfe Persique, les combattants de la marine Zolfaror du CGRI l'ont confisqué. Évoquant l'arrestation d'une personne dans ce cadre, il a noté « Lors de l'inspection de ce bateau, plus de 250 000 litres de carburant de contrebande ont été découverts et saisis ». Le juge en chef de la province d'Ormuzgan a déclaré que les auteurs de la contrebande organisée de carburant sont reconnus coupables. Leurs biens liés à ce crime seront confisqués. En outre, ils seront condamnés à une amende et à une peine de prison. Conformément à l'application de l'article 20 de la loi contre la contrebande, le navire utilisé à cette fin sera également saisi au profit du gouvernement iranien, a-t-il conclu. Mohammad Borel Namazi, relâché de prison il y a quelques jours, a quitté l'Iran aujourd'hui mercredi et s'est envolé pour Oman, pays médiateur. Lors d'une conversation avec le président iranien Ebrahim Raisi, le secrétaire général des Nations Unies a remercié le président iranien. De même, le ministre omanais des Affaires étrangères, dans une conversation téléphonique avec son homologue iranien, Hossein Amir Abdollahian, a remercié l'action humanitaire de Téhéran pour la liberté de Namazi. Namazi a été arrêté il y a 6 ans sur ordre du pouvoir judiciaire pour le crime de collaboration avec des pays hostiles contre les intérêts nationaux. Sachez également qu'un pèlerin du Hajj arrêté par l'Arabie saoudite retourne en Iran. Khalil Dardmand, un ressortissant iranien arrêté il y a environ 3 mois par les autorités saoudiennes lors du pèlerinage du Hajj, est rentré en Iran. Khalil Dardmand a été arrêté il y a environ 80 jours après avoir publié sur son compte Twitter une image du général iranien Qassem Soleimani à côté de la Kaaba, le bâtiment au centre de la mosquée Masjid al-Haram à la Mecque. Le général Soleimani, commandant de la force du corps des gardiens de la révolution islamique, a été assassiné par l'ordre direct de Trump le 3 janvier 2020 lors d'une frappe ciblée de drone dans la capitale irakienne Bagdad. L'Iran a rejeté l'affirmation du Maroc selon laquelle Téhéran s'ingère dans les affaires internes du Yémen. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré que le Maroc devrait se préoccuper des menaces qui pèsent sur la région en raison de sa normalisation avec Israël, au lieu de lancer des accusations sans fondement contre l'Iran. Il a conseillé au Maroc d'œuvrer pour mettre fin aux souffrances du peuple opprimé du Yémen en disant que Rabat devrait préparer le terrain pour déterminer le sort du peuple sahraoui dans le cadre de la Charte des Nations Unies. Cette déclaration intervient après que le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a accusé la République islamique d'Iran de propager le terrorisme, la division et le conflit dans le monde arabe. La guerre saoudienne contre le Yémen a fait jusqu'à présent des centaines de milliers de morts et créé ce que les Nations Unies appellent la pire crise humanitaire au monde. À la tête d'une coalition arabo-occidentale, l'Arabie saoudite est intervenue militairement au Yémen en 2015 avec le soutien phare des États-Unis. Cette invasion sanglante et dévastatrice est intervenue après que le peuple yéménite a protesté contre un régime fantoche soutenu par Riyad et l'a chassé du pouvoir. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Fake news, menace pour la sécurité. Selon l'envoyé de la République islamique auprès des Nations Unies et d'autres organismes internationaux à Genève, la diffusion de fausses informations constitue une menace majeure pour la promotion des droits de l'homme en Iran. Ali Bahrein, le représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, a critiqué certains pays pour avoir répandu la désinformation au milieu des événements au cours dans le pays, le décrivant comme une menace majeure pour l'avancement des droits de l'homme. Dans un discours prononcé, Ali Bahreini a fait ses remarques en réponse à une déclaration conjointe d'un certain nombre de membres de l'ONU au Conseil des droits de l'homme de l'Organisation mondiale, au sujet des émeutes et des troubles qui ont suivi la mort de Mahsa Amini, une jeune iranienne de 22 ans. La jeune femme s'est écroulée dans un poste de police de la capitale Téhéran et est décédée à l'hôpital malgré des soins médicaux intensifs et des efforts de réanimation. Lors des violentes manifestations qui ont déclenché des partis dissidents à l'étranger, en exploitant au maximum cet événement dramatique, mais indépendamment de la volonté des autorités policières iraniennes, des agents de sécurité ont été attaqués et des biens publics ainsi que des véhicules de police et des ambulances ont été vandalisés. Dès le premier instant de la mort de Mademoiselle Mahsa Amini, de hauts responsables iraniens, en premier lieu le leader de la révolution islamique, ainsi que le président iranien, ont ordonné une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de cet incident tragique, avec urgence et précision, a déclaré M. Bahreini, garantissant que les résultats définitifs des enquêtes en cours seront bientôt rendus publics en toute transparence. Nous exhortons les autres parties à s'abstenir de faire des annonces ou des déclarations hâtives, a déclaré le diplomate de haut rang iranien. Le double standard et l'approche sélective, partielle et partiale sur les questions relatives aux droits de l'homme, ainsi que la diffusion d'informations fausses, trompeuses et mensongères, sont l'une des menaces sérieuses à la promotion des droits de l'homme, a déclaré Ali Bahreini, ajoutant « L'incitation à la violence, à la haine, à la désobéissance civile et au terrorisme n'est tolérable dans aucune société ». Assurant que la République islamique apprécie et salue les efforts sincères pour défendre les droits des femmes et des filles, M. Bahreini a déclaré « L'Iran est l'un des exemples les meilleurs et les plus réussis de la promotion des droits des femmes et les indicateurs ont montré des progrès remarquables dans le statut des femmes iraniennes dans divers domaines, à savoir l'éducation, la santé, l'industrie, l'économie, et la politique. » Le diplomate a conclu que la République islamique est fermement attachée à ses obligations internationales dans le domaine des droits de l'homme et coopère avec le Conseil des droits de l'homme en la matière.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour une nouvelle édition de débat. En effet, dès qu'un pays, surtout un pays africain, annonce ne plus vouloir marcher sur les diktats occidentaux et de l'ex-US OTAN, ce sont les sanctions de part et d'autre, des sanctions multilatérales, surtout des sanctions économiques, qui tombent sur le pays. L'un des premiers pays à avoir subi les sanctions de la CEDEAO a été le Mali. La junte malienne, le gouvernement malien qui a expulsé la France de son territoire, qui a fermé son ciel au vol français et qui a annoncé que la souveraineté était sa priorité. Ensuite, c'était le rôle de la Guinée dans cette lutte anti-terrorisme et surtout anti-Occident et anti-coloniale. Désormais, c'est la Guinée qui se trouve le cible des sanctions de la CEDEAO. Dans cette édition de débat, nous allons évoquer ce sujet avec nos invités. Mais avant de vous les présenter, je vous invite à regarder un reportage à ce sujet. On revient tout de suite après.
Le Mali a indiqué se dissocier des sanctions infligées aux voisins guinéens, également gouvernés par des militaires, par la communauté des États ouest-africains, CEDEAO. Le Mali et la Guinée, membres de la CEDEAO, sont suspendus de ses organes de décision pour sanctionner la prise de pouvoir par des militaires et leur maintien prolongé à la tête de ces pays. Les militaires ont renversé les régimes civils en août 2020 au Mali et en septembre 2021 en Guinée. Outre la suspension des organes de décision déjà en vigueur, un sommet de la CEDEAO, sans participation guinéenne ni malienne, a décidé le 22 septembre de suspendre toute assistance et transaction financière des institutions financières de l'organisation avec la Guinée. Un certain nombre de personnalités sont par ailleurs frappées de sanctions individuelles. Le gouvernement malien se dit outré par ces mesures contre la Guinée dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux depuis mercredi soir. Exprimant une solidarité indéfectible avec les Guinéens, le gouvernement malien décide de se désolidariser de toutes les sanctions illégales, inhumaines et illégitimes prises à l'encontre de la République sœur de Guinée et ne leur réservera aucune suite. Il adoptera, si nécessaire, des mesures pour aider la Guinée et contrecarrer les effets des sanctions. La publication de ce communiqué précède de près la visite prévue jeudi au Mali de 3 chefs d'État ouest-africains dépêchés par la CEDEAO pour tenter de dénouer une crise diplomatique avec un autre voisin, la Côte d'Ivoire. Le Mali a lui-même été soumis de janvier à juillet de la part de la CEDEAO à un sévère embargo commercial et financier punissant le projet des militaires de rester au pouvoir jusqu'à 5 années supplémentaires. La junte dirigée par le colonel Assimi Goïta s'est depuis engagée sous la pression à organiser des élections en février 2024 et la CEDEAO a levé l'embargo. Mais des sanctions individuelles restent en vigueur contre les membres de la junte malienne. La Guinée a été l'une des rares à se solidariser avec le Mali face aux sanctions de janvier et a maintenu ses frontières ouvertes. Le colonel Mamadi Doumbouya a été reçu avec tous les honneurs par son homologue malien le 22 septembre, jour où se tenait le sommet de la CEDEAO.
En effet, le Mali et la Guinée sont plus proches que jamais. Une coalition interafricaine qui aurait pour but de lutter contre le terrorisme et surtout contre la néocolonisation menée par l'axe US-OTAN en Afrique. Alors à ce sujet, je m'adresse à vous Luc Michel, géopoliticien qui est avec nous depuis Bruxelles. Vous qui êtes un très bon connaisseur de l'Afrique, l'un des meilleurs experts dans ce domaine, Monsieur Michel. Dans un premier temps, comment interprétez-vous ces sanctions de la CEDEAO contre la Guinée, ces sanctions qui ne sont pas inédites puisque on avait l'expérience avec le Mali?
Oui, bonjour à vous, bonjour à mon collègue. Il faut comprendre quelque chose, c'est que depuis que les Russes sont arrivés en Afrique, ils ont apporté de l'oxygène géopolitique aux chefs d'État africains. Ceux-ci ne sont plus obligés de suivre aveuglément les Occidentaux. Ils ont l'occasion de choix. Ça a été le cas au Mali qui a choisi le Burkina. Mais dans le cas de Conakry, c'est un retour géopolitique qu'on a assisté, puisque au départ, c'est un État pro-occidental qui est fait avec l'aide de l'ambassade des États-Unis. Mais petit à petit, le lieutenant-colonel Doumbouya s'est révélé un patriote. Il s'est lié avec les colonels de Bamako et il a refusé les diktats français et américains. Il est donc considéré comme un ennemi par la CEDEAO. Dans ce rapport de force, la CEDEAO est entièrement entre les mains des États-Unis, de la France et de l'OTAN. Il est dirigé par un espèce de syndicat des chefs d'État pro-africains. Il y a pro-occidentaux. Il y a tout d'abord le président du Ghana qui est lié par un accord de partenariat stratégique avec les États-Unis. Il est seul dans ce cas-là et dont l'armée est liée à un accord de partenariat avec la Bundeswehr. C'est le Ghana qui sert de porte d'entrée aux Allemands depuis 2013 en Afrique. La Côte d'Ivoire et le roi du Maroc sont des chefs d'État pro-français qui soutiennent la politique de Paris. Et enfin, le Mohamed Bazoum, lui, est un chef d'État pro-américain et pro-français qui a fait de son pays le cœur de la guerre américaine du Sahel. Il y a des bases américaines, espagnoles et allemandes au Sahel, en plus des Français. Donc, maintenant qu'il n'y a plus directement des sanctions contre le Mali, on tente des sanctions contre la Guinée-Conakry, en sachant que celle-ci touche directement les colonels au pouvoir à Conakry. En effet, contrairement aux colonels de Bamako, qui n'avaient pas de lien en France, le lieutenant-colonel Doumbouya est un ancien officier français. Il a deux épouses. Il est marié à une Française et à une Allemande. Et il a donc de la famille, des biens et des comptes bancaires en France et en Allemagne. Il va donc subir directement et personnellement les conséquences des sanctions, en plus des frappes contre l'économie de Conakry. C'est donc évidemment un bras de fer qui est engagé avec la CEDEAO.
Merci pour vos explications. Reste en ligne. Je m'adresse désormais à notre deuxième invité, Philippe Hugon, analyste politique, qui est avec nous depuis la France. Monsieur Hugon, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous, Monsieur Hugon, comment interprétez-vous ces tendances anticolonialistes, ces tendances souverainistes et cette coalition interafricaine qui a pris ses débuts au Mali, qui s'étend désormais dans plusieurs pays, dont la Guinée, et cette tendance des pays africains de se détacher, en fait, de l'axe colonial?
Oui, alors je pense que... Bonjour à tous d'abord, hein, et bonjour à votre invité. Alors, voilà, moi je pense que depuis très longtemps maintenant, la France a une présence en Afrique, et bien sûr, pas seulement en Afrique, mais ça a été le cas en Indochine notamment. Et bien sûr qu'il y a des conséquences immédiates, mais c'est important de parler également du passé, puisqu'en fait, je pense que aujourd'hui, nous payons notre politique colonialiste qu'on a menée pendant des dizaines d'années, et je vous dis bien, c'est pas seulement en Afrique, mais c'est également en Indochine, c'est de partout où les puissances occidentales sont allées et ont imposé leur diktat, que ce soit social, économique, financier. Donc aujourd'hui, on paye cette politique. Et il faut bien savoir que les pays africains, notamment, sont des pays qui se développent beaucoup aujourd'hui. Et on a quand même des gens en Afrique qui sont extrêmement performants, puisqu'ils ont fait des grandes écoles, qu'ils ont appris, et qu'aujourd'hui, ils ne sont plus du tout prêts à accepter les dictats du monde occidental. Donc, quelque part, moi, je trouve que c'est une très bonne chose pour ces pays. Et l'erreur qu'on a faite, c'est de ne pas les avoir laissés évoluer un petit peu à leur vitesse, en les conseillant d'une certaine façon, et ne pas leur imposer ce que l'on a fait. Vous savez, en France, on a organisé des attentats contre les dirigeants africains. On en a éliminé physiquement un certain nombre, donc il fallait bien penser que tôt ou tard, ceci allait nous retomber dessus. Eh bien, je pense que c'est la suite logique de notre politique menée depuis des dizaines d'années en Afrique et qui amène à cette situation. Alors, bien sûr, il est clair qu'aujourd'hui, un certain nombre de ces pays ne veulent se passer de ces opinions européennes et ne sont plus prêts à accepter les dictats occidentaux, hein, financiers notamment. Et bien sûr, ce qui pose le problème, c'est surtout la répression menée par le monde occidental sur un plan financier envers ces pays d'Afrique à qui on freine le développement parce que ces pays, justement, prennent une certaine indépendance financière et politique. Et nous ne sommes pas prêts à l'accepter aujourd'hui.
Merci pour vos explications, Monsieur Hugon. Reste en ligne, s'il vous plaît. Alors, Monsieur Michel, le Mali s'est dissocié des sanctions de la CEDEAO contre la Guinée. On se rappelle que quand il y avait les sanctions contre le Mali, la Guinée avait fait la même chose, avait fait parvenir du pétrole vers le Mali durant les sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Et comment pourrait-on interpréter cette alliance, cette coalition interafricaine qui se crée, surtout dans ces temps de pression et de sanctions de part et d'autre occidentales, téléguidées par les occidentaux?
Et on assiste un peu à ce qui s'est passé en Ukraine contre la Russie. C'est-à-dire qu'on pénalisait les économies des pays voisins, que ce soit la Guinée Conakry, le Togo, mais également la Côte d'Ivoire. C'est contre cela que certains chefs d'État, en particulier en Guinée Conakry et au Togo, se sont détournés. Il y a d'autres chefs d'État qui ont adopté dans cette position des positions anti-occidentales. Le Gabon, par exemple, qui hier a refusé au Conseil de sécurité de voter les nouvelles sanctions contre la Russie. Il y a le Togo qui était le meilleur allié du Mali. Et il y a une relation d'amitié qui s'est déclarée entre le colonel Goïta et le lieutenant-colonel Dombouya. Celui-ci était encore en visite d'amitié d'État il y a quelques jours en Guinée-Conakry. Cette amitié est particulièrement spectaculaire. Ces gens ne sont pas encore des chefs d'État panafricanistes. Ce sont des chefs d'État, comme vous l'avez bien dit, pas souverainistes, qui veulent une politique indépendante pour leur pays. Ce que la France paye, ce n'est pas tellement les décennies de colonialisme, c'est le vol des indépendances africaines par De Gaulle et Foccart à partir de 1960, ce qu'on a appelé la France-Afrique et qui a été maintenu jusqu'à Emmanuel Macron. Une biographie sortie de la France-Afrique au mois d'octobre de l'année passée, elle avait un titre significatif. Elle s'intitule « L'Empire qui ne voulait pas mourir ». Aujourd'hui, nous assistons à l'agonie de l'Empire, justement parce qu'aujourd'hui, les chefs africains ont de l'oxygène géopolitique avec la Chine, la Russie et avec l'Iran. Particulièrement, un chef d'État comme Macky Sall au Sénégal est étroitement allié à l'Iran et au Venezuela dans un corridor anti-sanctions Téhéran, Caracas, Dakar et dans ce qu'on appelle l'OPEP du gaz autour de la Russie et de la Guinée équatoriale. La France se croit toujours dans l'ancien cycle géopolitique comme les Américains. Ils se comportent encore comme au début des printemps arabes et africains. Et depuis 2015-2016, nous sommes entrés dans une nouvelle période.
Merci pour vos explications. Restez en ligne. Alors, M. Hugon, vous avez évoqué toutes ces années de colonisation de la France, surtout sur les pays africains. À votre avis, est-ce que toutes ces années de colonisation, de pression, de pillage, de ressources naturelles ont payé pour la France? Est-ce que la France a enfin, en fait, réussi à soumettre les pays africains à ces dictats?
Alors, il est sûr que la France est arrivée à soumettre un certain nombre de pays africains. D'abord, on a beaucoup utilisé les pressions économiques, mais on a également utilisé les pressions financières. On a acheté des dirigeants africains qui se sont laissés corrompre. Mais moi, ce que je trouve très grave, et malheureusement, on en parle très peu souvent dans les médias, c'est le nombre de victimes, le nombre de gens qui sont morts pour de mauvaises raisons. Et c'est ça que je trouve également très perturbant aujourd'hui, c'est ce qui se passe en Ukraine. On parle beaucoup de Poutine et d'Ukraine, mais je trouve que l'on parle pas beaucoup de tous ces pauvres gens qui se font tuer chaque jour pour de mauvaises raisons. Alors, peu importe les raisons politiques, économiques, financières, c'est le bilan humain qui est absolument catastrophique. Et ça, quel que soit d'ailleurs le côté où l'on se place, hein, c'est aussi bien valable que du côté ukrainien que du côté russe. Maintenant, moi, ce qui me gêne le plus, ce qui m'embête le plus dans tout ça, c'est quelles vont être les conséquences pour cette politique économique, sociale, financière, pour l'Ukraine et également pour la Russie, car il faut savoir quand même que la Russie a un certain nombre de fragilités financières, puisqu'ils subissent également de fortes pressions de la part de l'ONU et du monde occidental. Hein. Ils ont quand même de très grosses sanctions sur le dos. Comment tout ceci va se finir? Il faut bien savoir que quand on va acculer un certain nombre de dirigeants ou un certain nombre de pays, on sait malheureusement que tout ceci se termine dans une violence absolument redoutable.
Mmh. Justement, alors, M. Hugon, je m'adresse toujours à vous. Tous ces crimes de guerre, toutes ces victimes, que ce soit de la partie africaine et même de la partie occidentale française, ces soldats, est-ce que la France ne serait pas, traînée à la justice internationale un jour pour ces crimes?
Eh bien, elle devrait être traînée. Vous savez, quel que soit le président, ça va de De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, enfin tous les présidents qui se sont succédés ont beaucoup pratiqué la politique de l'ingérence, que ce soit d'ailleurs en Afrique ou en Indochine. Hein. Eh bien, moi, je constate une chose, c'est que ces dirigeants aujourd'hui sont décédés et ils n'ont jamais été condamnés. Il serait bon aujourd'hui pour l'avenir du monde que l'on puisse condamner, comme le disait Luc Michel quand il a parlé notamment de la France-Afrique, eh bien que l'on condamne ces gens-là. Le problème, c'est qu'il y a des sommes en jeu et des intérêts économiques qui sont tels Aujourd'hui, on utilise beaucoup, beaucoup la corruption. Et malheureusement, on s'aperçoit que ceci marche très bien, d'ailleurs, puisqu'on oublie sur un plan historique un grand nombre d'événements qui se sont passés. Et c'est une fois de plus la corruption qui l'emporte. Et c'est vraiment dommage. Il faut espérer que dans les années qui viennent, il y ait quand même un sursaut de moralité dans la partie historique de ce qui se passe en Afrique, notamment, pour que l'on puisse remettre les choses à leur juste place et qu'on puisse condamner, même à titre posthume, des gens qui ont été à la tête d'un pays et qui ont pratiqué des injustices terribles envers l'Afrique, notamment, et qu'on puisse condamner à titre posthume tous ces gens-là et qu'on puisse reconnaître la réalité des choses. Il faut bien savoir que sur un plan historique, tout ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, c'est le résultat de nos politiques colonialistes que nous avons menées depuis des dizaines d'années.
Merci pour vos explications. Reste en ligne. Alors, Monsieur Michel, nous venons d'écouter les explications de Monsieur Hugon en ce qui concerne cette justice internationale. On sait bien que le Mali avait demandé il y a quelques semaines que la France soit traduite devant le Conseil, une session urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies, afin de répondre en fait à leurs crimes de guerre, à leur collaboration avec les terroristes, les renseignements qu'ils ont donnés aux terroristes. Au Mali, est-ce qu'un jour vraiment on pourrait être témoin du fait que la France et ses acolytes soient traînés devant la justice internationale pour leurs crimes de guerre?
Moi, je répondrai carrément non, et il ne faut pas être naïf. Ce qu'on appelle la soi-disant justice internationale, c'est un instrument entièrement aux mains des Occidentaux. Elle est constituée du Conseil des droits de l'homme de Genève de l'ONU, qui est aux mains des Américains. Et elle est constituée de la Cour pénale internationale qui est aux mains des Américains et qui est financée par George Soros. Mon regretté ami Jacques Vergès, au moment de l'affaire de la Libye en 2016, il est décédé aujourd'hui, avait tenté un recours contre Sarkozy, Obama et Cameron devant la Cour pénale internationale. Il avait été débouté et les dirigeants occidentaux avaient été amnistiés par la soi-disant CPI. Depuis, évidemment, la CPI est une machine à poursuivre les ennemis de l'Occident. La Yougoslavie, Milosevic, les dirigeants russes. Et on a uniquement, évidemment, depuis une dizaine d'années, les dirigeants africains. Il ne faut rien attendre de ce côté-là, bien entendu. Il y a un livre terrible qui s'appelle « Les tueurs de la République » qui explique comment, on parle de François Hollande jusqu'à De Gaulle, les Français ont assassiné 52 chefs d'État et premiers ministres africains, organisé des coups d'État, des sécessions et des guerres civiles. Comment ils s'en vont? Les services secrets français, le SNEC aujourd'hui, la DGSE, ou un service spécialisé dans l'assassinat des chefs d'État étrangers, qu'on appelle le service HOMO pour homicide. Le président américain, il émet des actes d'exécution extraterritoriaux, les fameux pending. Les Britanniques, eux, ont les doubles agents, double zéro, dont est le fameux personnage de film, double zéro sept. Tous ces gens sont des assassins, évidemment. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que tant de pays africains sont avec la Chine, la Russie ou l'Iran? C'est parce que justement ceux-ci apportent du respect et de la justice en Afrique. Un respect et une justice qui s'éteignent jusqu'à l'heure.
Merci à vous, Monsieur Michel. Restez en ligne, Monsieur Hugon. Dans les jours, les semaines, les mois à venir, vu ce qui se passe en Afrique, surtout au Sahel, mais aussi dans la côte en Guinée, à quoi devrait-on s'attendre en ce qui concerne les relations, si on pourrait dire, mais surtout les tensions entre le Mali, la Guinée, la CEDEAO et surtout la partie occidentale?
Oui, alors c'est vrai qu'on va assister certainement à de très fortes tensions. Maintenant, je pense qu'il est très difficile de savoir comment les choses vont pouvoir se passer aujourd'hui. Il y a quand même une incertitude. Néanmoins, je pense que le monde occidental ne lâchera pas ces pays parce qu'il y a des intérêts économiques qui sont énormes et que les pays occidentaux ont besoin de ces ressources. Et sont prêts, comme le disait Luc Michel d'ailleurs, avec tous ces assassinats d'hommes politiques africains. Et on s'aperçoit que finalement les choses changeront, Moi, je le pense sincèrement, mais ça va demander encore quelques dizaines d'années avant que les choses puissent évoluer du bon côté.
Merci à vous. Et le dernier mot est à vous, M. Michel. On vous écoute.
Il faut savoir qu'actuellement, non pas les Français, mais les Américains sont le danger en Afrique. Ils ont depuis le printemps arabe en 2000 et le printemps africain en 2014 un projet de recolonisation de l'Afrique. Ils sont aujourd'hui dans une opération de contre-offensive. Les forces spéciales occidentales et l'Afrique sont en train de se déployer dans une zone qui va du Maroc à la mer Rouge et ils sont en train de discuter au Sénat américain une loi spéciale après l'avoir adoptée une majorité bipartisane au Congrès. C'est une loi qui vise de sanctions économiques tous les États qui vont faire des affaires avec la Russie. C'est donc encore plus de misère, encore plus de choc économique pour les Africains. La bonne nouvelle, c'est que les Français sont en perte de vitesse. Après avoir été le gendarme de l'Afrique pour les Américains, ils sont aujourd'hui pris entre le marteau et l'enclume. Le marteau, ce sont les masses panafricaines qui veulent le départ des Français. L'enclume, ce sont les Américains qui veulent que les Français dégagent. Ils veulent américaniser la guerre du Sahel et relocaliser les Français au Mozambique. Il y a eu un sommet économique anglo-saxon en janvier 2019 à Londres. Le sommet Grande-Bretagne-Afrique. La Grande-Bretagne du Brexit a exprimé sa volonté de remplacer la France sur tous les marchés africains. L'espoir des Africains, elle est aussi dans cette guerre civile des Occidentaux qui va affaiblir ceux-ci dangereusement, en plus de l'action des Russes et des Iraniens.
Merci beaucoup. Alors, pour cette émission, Luc Michel, géopoliticien, et Philippe Hugon, analyste politique, étaient avec nous. Merci à vous deux d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci à vous, mesdames et messieurs, à vous de nous avoir suivis pour cette édition du débat. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
L'euro sans l'Allemagne. La réaction au sabotage de 3 des 4 pipelines Nord Stream 1 et 2 en 4 endroits le lundi 26 septembre s'est concentrée sur les spéculations quant à l'identité du coupable et sur la question de savoir si l'OTAN fera une tentative sérieuse pour découvrir la réponse. Pourtant, au lieu de la panique, il y a eu un grand soupir de soulagement diplomatique, voire de calme. La mise hors service de ces pipelines met fin à l'incertitude et aux inquiétudes des diplomates des États-Unis et de l'OTAN qui ont failli atteindre une proportion de crise la semaine précédente, lorsque de grandes manifestations ont eu lieu en Allemagne pour demander la fin des sanctions et la mise en service de Nord Stream 2 pour résoudre la pénurie d'énergie. Le public allemand commençait à comprendre ce que signifiait la fermeture de ces entreprises d'acier, d'engrais, de verre et de papier toilette. Ces entreprises prévoyaient qu'elles devraient mettre la clé sous la porte ou transférer leurs activités aux États-Unis si l'Allemagne ne se retirait pas des sanctions commerciales et monétaires contre la Russie et n'autorisait pas la reprise des importations de gaz et de pétrole et vraisemblablement leur diminution par rapport à leur augmentation astronomique de 8 à 10 fois. Pourtant, la faucon du département d'État, Victoria Nuland, avait déjà déclaré en janvier que d'une manière ou d'une autre, Nord Stream 2 n'avancera pas si la Russie répond aux attaques militaires accélérées de l'OTAN et de l'Ukraine contre les oblasts orientaux russophones. Le président Joe Biden a soutenu l'insistance des États-Unis le 7 février en promettant qu'il n'y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin, je vous le promets, nous serons en mesure de le faire. La plupart des observateurs ont simplement supposé que ces déclarations reflétaient le fait évident que les politiciens allemands étaient entièrement dans la poche des États-Unis et de l'OTAN. Ils ont tenu bon en refusant d'autoriser Nord Stream 2 et le Canada a rapidement saisi les dynamos immenses nécessaires à l'acheminement du gaz par Nord Stream 1. Cela semblait régler la question jusqu'à ce que l'industrie allemande et un nombre croissant d'électeurs commencent enfin à calculer ce que le blocage du gaz russe signifierait pour l'entreprise industrielle allemande. La volonté de l'Allemagne de s'auto-imposer une dépression économique a vacillé, mais pas ses politiciens ni la bureaucratie européenne. Si les responsables politiques allemands faisaient passer les intérêts commerciaux et le niveau de vie de l'Allemagne en premier, les sanctions communes et le nouveau front de la guerre froide de l'OTAN seraient brisés. L'Italie et la France pourraient suivre le mouvement. Ce cauchemar de l'indépendance diplomatique européenne rendait urgent de retirer les sanctions anti-russes des mains de la politique démocratique et de régler les choses en sabotant les deux pipelines. Bien qu'il s'agisse d'un acte de violence, il a permis de rétablir le calme dans les relations diplomatiques internationales entre les politiciens américains et allemands. Il n'y a plus d'incertitude quant à savoir si l'Europe se détachera ou non des objectifs de la nouvelle guerre froide des États-Unis en rétablissant le commerce et les investissements mutuels avec la Russie. Cette option est désormais écartée. La menace d'une rupture de l'Europe avec les sanctions commerciales et financières des États-Unis et de l'OTAN contre la Russie a été résolue, apparemment pour un avenir prévisible, car la Russie a annoncé qu'avec la baisse de pression du gaz dans 3 des 4 gazoducs, l'infusion d'eau salée corrodera irréversiblement les tuyaux. Où vont l'euro et le dollar à partir de maintenant? En observant comment cette solution commerciale va remodeler la relation entre le dollar américain et l'euro, on peut comprendre pourquoi les conséquences apparemment évidentes de la rupture des liens commerciaux entre l'Allemagne, l'Italie et d'autres économies européennes et la Russie n'ont pas été discutées ouvertement. Le débat sur les sanctions a été résolu par un crash économique allemand, voire européen. Pour l'Europe, la prochaine décennie sera un désastre. Il y a peut-être des récriminations contre le prix à payer pour avoir laissé sa diplomatie commerciale être dictée par l'OTAN, mais elle ne peut rien y faire. Personne ne s'attend encore à ce qu'elle rejoigne l'Organisation de coopération de Shanghai. Ce que l'on attend, c'est que son niveau de vie s'effondre. Les exportations industrielles de l'Allemagne ont été le principal facteur de soutien du taux de change de l'euro. Le grand intérêt pour l'Allemagne de passer du Deutsche Mark à l'euro était d'éviter que son excédent d'exportation ne fasse grimper le taux de change du Deutsche Mark à un point tel que les produits allemands seraient hors de prix sur les marchés mondiaux. L'élargissement de la monnaie à la Grèce, l'Italie, le Portugal, l'Espagne et d'autres pays dont la balance des paiements est déficitaire empêcherait la monnaie de s'envoler. Et cela protégerait la compétitivité de l'industrie allemande. Après son introduction en 1999 à 1,12 $, l'euro a effectivement chuté à 0,85 $ en juillet 2001. Mais il s'est redressé et atteint 1,58 $ en avril 2008. Il n'a cessé de baisser depuis lors. Et depuis février de cette année, les sanctions ont fait passer le taux de change de l'euro en dessous de la parité avec le dollar pour atteindre 0,97 $ cette semaine. Le principal facteur a été la hausse des prix du gaz et du pétrole importé, ainsi que des produits tels que l'aluminium et les engrais dont la production nécessite de lourds intrants énergétiques. Et à mesure que le taux de change de l'euro baisse par rapport au dollar, le coût du portage de sa dette en dollars américains, condition normale pour les filiales des multinationales américaines, augmentera, ce qui réduira leurs bénéfices. Ce n'est pas le genre de dépression où les stabilisateurs automatiques peuvent faire fonctionner la magie du marché pour rétablir l'équilibre économique. La dépendance énergétique est structurelle et les propres règles économiques de la zone euro limitent ses déficits budgétaires à seulement 3% du PIB. Cela empêche ces gouvernements nationaux de soutenir l'économie par des dépenses déficitaires. La hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires et du service de la dette en dollars laissera beaucoup moins de revenus à dépenser en biens et services. Il semble curieux que la bourse américaine ait grimpé en flèche, 500 points pour Dow Jones Industrial Average, mercredi 28 septembre. Peut-être s'agissait-il simplement de l'intervention de l'équipe de protection contre les plongeons pour tenter de rassurer le monde que tout allait bien se passer. Mais la réalité économique a pointé le bout de son nez jeudi, et la bourse a rendu ses gains fantômes. Il est vrai que la fin de la concurrence industrielle allemande avec les États-Unis est terminée sur le plan commercial. Mais sur le plan des capitaux, la dépréciation de l'euro va réduire la valeur des investissements américains en Europe et la valeur en dollars des bénéfices que ces investissements peuvent encore apporter à mesure que l'économie européenne se contracte. Les bénéfices déclarés par les multinationales américaines vont donc diminuer.
Thank you.